Encore une fois, je vous conseille juste d'écouter. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certainement chose contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit.
On n'avait pas pensé à cette chute à la fin du texte, en choisissant le caillou pour lire ce texte. Voilà, les aléas du direct. Vous allez trouver sur la page 13, donc, le petit résumé de ce que l'on va faire aujourd'hui. Si vous avez retenu une chose de ce que j'ai dit hier, j'espère que c'est la petite phrase que Jésus est au milieu des chandeliers, donc au milieu des églises. Ça veut dire que dans cette situation, donc je rappelle de persécution, c'est que Jésus était là au milieu de ces églises. Et aujourd'hui, nous allons étudier une partie de ces chapitres 2 et 3. Ce sont sept lettres écrites à sept églises. Normalement, si tout va bien, Yo a un petit plan de ces sept églises. On va voir si ça marche. Voilà, ça arrive. En direct, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin, donc à droite, c'est la Turquie. À gauche, c'est la Grèce. Donc Athènes et toutes ces petites îles. Et parmi les îles à droite, donc avant la Turquie, une de ces îles s'appelle Patmos, mais je ne sais pas laquelle, je n'ai jamais été là. Si quelqu'un était à Patmos, il peut me le dire. Mais c'est sur cette île que Jean a écrit donc l'Apocalypse. Et vous voyez les sept églises-là, dans la partie occidentale de la Turquie, Éphèse, Smyrne, Sardes, Thyatire, Pergame, Philadelphie, Laodicée. Je pense que c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est bon. C'est simplement pour situer. Alors pourquoi je voulais situer ? Parce que hier, j'ai parlé des trois approches, et dans le feu de l'action, quelqu'un m'a dit, avec raison, que je ne m'étais pas bien exprimé, donc je le redis, les trois approches qu'on peut avoir de l'Apocalypse. Il y en a certains qui voient simplement quelque chose de passé, donc la situation de l'Église à l'époque. Et donc ça, c'est l'approche qu'on peut appeler prétériste, parce que c'est le passé. Il y en a d'autres qui pensent qu'on parle de tout le panorama de l'histoire, donc depuis les prophètes jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est l'approche historiciste, parce que c'est toute l'histoire. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, mais tout ce qui est dans l'Apocalypse, c'est pour l'avenir. Donc ça, c'est l'approche futuriste. Donc si je ne m'étais pas bien exprimé hier, je m'excuse. Après, je me suis dit, oui, ce n'était pas très clair ce que j'avais dit. Mais le plus important, c'est de dire, mais pour moi, personnellement, il faut regarder le texte, et quand on regarde le texte, je crois que l'on trouve des traces de tout cela. Parce que nous avons déjà une partie, je dirais, historique. Quand on lit les lettres, il y a des allusions. Je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Dans Apocalypse 3, 18, la lettre écrite à l'église de Laodicée, nous lisons « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, etc. » Et puis « Et un collier pour oindre tes yeux. » Mais en fait, à Laodicée, il y avait une célèbre faculté de médecine qui produisait un collier célèbre dans l'Antiquité. Donc vous voyez, il y a des allusions historiques véritables par rapport à cette église. Donc ça, ce serait un peu historique. Il y en a d'autres qui sont beaucoup prétéristes, si on veut. Il y en a d'autres, une approche historiciste, qui va dire, mais c'est tout le panorama de l'église. Je pense que c'est un peu fantaisiste, vous n'êtes pas obligé de retenir, même de noter, mais ils disent, l'Éphèse, c'est l'église du 1er siècle où tout se passait bien, Smyrne, c'était la persécution après, Pergame, l'époque de Constantin, quand on a déclaré l'église la religion officielle de l'Empire romain, Thyatire, le Moyen-Âge, Sardes, la Réforme, Philadelphie, la grande époque missionnaire du 19e siècle, et là, Laodicée, bien sûr, le temps de la fin, où ça ne va pas, parce que depuis tout temps, on a toujours dit, ça ne va pas aujourd'hui, c'était mieux avant. Donc voilà, ça fait partie de l'esprit humain. Je pense que c'est un peu fantaisiste. Une autre approche, c'est de dire, ce qui est mon approche, que les sept églises, sept qui représentent la perfection, représentent l'église universelle, avec tout ce que l'on peut recevoir comme reproche, encouragement, compliment, etc. Donc, de tout le temps, les églises sont comme cela. J'ai imaginé à un certain moment deux personnes qui se rencontrent dans la rue, qui ne s'étaient pas vues depuis longtemps, et deux chrétiens. Le premier dit au deuxième, « Tiens, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, qu'est-ce que tu deviens ?» etc. Et puis, « Ah, mais c'est bien, maintenant je fais partie d'une église conforme au Nouveau Testament. » Et le premier dit, « Oui, on a beaucoup de problèmes dans notre église aussi. » Parce que ça, c'est la réalité même à l'époque du Nouveau Testament. La plupart des lettres n'auraient pas été écrites s'il n'y avait pas des problèmes à résoudre dans les églises. Donc, toutes ces différentes lettres peuvent nous parler aujourd'hui. Alors, si vous reprenez donc dans le petit carnet, vous avez en résumé le point principal, je dirais, de ce qui s'est passé et la raison pour laquelle ces lettres ont été écrites. Et après, je vais revenir un peu plus en détail sur deux de ces églises, Éphèse et Pergame, que Caillou a lu tout à l'heure. Éphèse, le problème, tu as abandonné ton premier amour. Smyrne, je connais ton affliction. Persécution. Pergame, la nécessité de combattre contre l'erreur et pour la vérité. Théâtre, là, la nécessité de combattre contre le péché et la débauche, ou l'immoralité sexuelle. Sardes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Donc l'apparence n'est pas tout. Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Encore que, il faut lire le reste de la phrase qui est absolument remarquable, parce que c'est dit, voici, parce que, c'est chapitre 3, verset 8, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, parce que tu as peu de puissance. Et on ne se prend pas pour le centre du monde, donc on est humble et on compte sur le Seigneur. Et puis, Laodicée, tu es tiède, ni froid, ni bouillant. Je crois que l'on peut reconnaître tous ces traits à un certain moment dans presque toutes les églises. Et c'est pour cela que je pense que c'est un message universel pour chacun de nous, pour nos églises. La première et la septième, Éphèse et Laodicée, sont en grave danger. La deuxième et la sixième, Smyrne et Philadelphie, vont bien. Pratiquement pas de reproches, le Seigneur les encourage à progresser. Et les trois du milieu, 3, 4, 5, comment dire aujourd'hui, ils ont la moyenne. C'est pas formidable, mais ça pourrait être pire. Donc, même la structure, on voit le premier et le dernier, ça va pas du tout. Deuxième et sixième, c'est bien. Et les trois autres, à voir. Il faut qu'ils tendent vers la perfection. Il y a une structure type pour toutes les lettres. On va retrouver la même structure chaque fois. Là, vous avez la structure type qui est indiquée sur votre livret. D'abord, chaque fois, à l'ange de l'Église 2. Même si en réalité le message s'adresse à l'Église, peut-être l'ange veut dire en fait messager, il y a un message qui arrive à l'Église. Deuxième chose, il y a une description de Jésus. Et si vous prenez le temps de regarder les sept lettres, vous allez voir que chaque lettre prend une phrase, une partie de la description de Jésus que nous avons vue hier au chapitre 1. Chaque fois, un élément. Ensuite, je connais. Ce sont les aspects positifs. Voilà ce qui se passe bien. Je connais. Mais ensuite, j'ai un reproche à te faire. Sauf Smyrne et Philadelphie, il y a un problème. Ensuite, un appel à la repentance. Là, peut-être un petit mot pour expliquer. C'est quoi la repentance? Parfois, on a une idée. Si vous prenez le livret, c'est le châtiment. Faites pénitence. La fin des temps est venue. Il y a un chrétien, pas jébusien, qui m'a dit, David, je pense que c'était bien de mettre cette image sur la pub. C'est pas très, très évangélique, ça, hein, faites pénitence. Mais, oui, c'est humoristique, vous avez compris. Hein. Mais c'est vrai que la pénitence n'est pas la repentance. Parce que la pénitence, c'est comme si on cherche à faire quelque chose pour se racheter. Alors que bibliquement, on est pécheur. La seule chose qui compte, c'est la grâce de Dieu, hein, et le pardon que nous avons en Jésus. Donc la pénitence est à exclure dans le sens dictionnaire, si on veut, faire quelque chose pour essayer de plaire à Dieu parce que nous avions mal agi. Et si, malgré tout, la pénitence est indiquée là, je crois que ce n'est pas de trop d'en parler, parce que même nous, si on est chrétien, le danger nous guette de vouloir se racheter soi-même. On a fait quelque chose de mal. On demande à Dieu de nous pardonner. Est-ce qu'on accepte qu'il nous pardonne ou est-ce qu'on pense en nous, ben, il faut que je me sente mal encore 24 heures, sinon, quelque part, ça ne va pas. Je demande souvent dans mon église combien de temps il faut entre le moment où on demande pardon à Dieu et au moment où il nous l'accorde. Et ma réponse, c'est ça se mesure en nanosecondes. Donc c'est rapide. On demande, il pardonne. Donc la pénitence est exclue. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, ce n'est pas non plus, même si cela arrive pour certaines personnes, d'être effondré devant Dieu, en larmes, etc. Bon, ça peut l'être. Mais ce n'est pas le sens du mot repentance. Le sens du mot en grec, ce qui est à la base quand même du Nouveau Testament, c'est changer de pensée, changer d'avis. C'est changer de pensée, changer de mentalité, penser autrement. Donc ça veut dire que quand je me repens, ça veut dire que je ne pense plus comme avant. Quelqu'un qui était athée, se repentir veut dire « maintenant je crois ». Quelqu'un qui faisait tel ou tel péché, je me repens, c'est je comprends que cela, ce n'est pas ce que Dieu veut. Etc., etc., etc. Donc c'est changer de pensée. Je cite des fois un moment que je vivais, je mets au passé continu, chaque semaine quand j'étais jébusien, il y a quelques années. Je faisais un stand biblique. Les stands, c'est bien. comme Yo l'a dit. Encore qu'à l'époque, c'était assez marrant parce qu'on avait tous les stands avec les istes autour de nous, les marxistes, les léninistes, les maoïstes, les guévaristes, les trotskistes, enfin, tous les istes qui étaient là. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, le GBU est toujours là, sans les istes autour. Et je faisais le stand avec un copain qui était extrêmement exubérant. Alors moi, quand je fais le stand, c'est plutôt, je me mets là, j'attendais que quelqu'un s'approche. Et il mettait la Bible en l'air comme ça, et il criait à tout le monde qui passait, « Lisez la Bible, ça vous changera les idées. » Mais c'est profond. Ça vous changera les idées. Parce que changer les idées, ça veut dire se repentir. Donc, c'est ça la repentance, on change d'idée, on dit « Dieu a dit vrai et moi je suis dans le faux ». Donc, je change d'idée. Et cela veut dire que pour devenir chrétien, il ne suffit pas de croire. J'ai une longue discussion avec quelqu'un il y a plusieurs mois à ce sujet. Bibliquement, que ce soit Jean-Baptiste d'abord, Jésus, Pierre le jour de la Pentecôte, Paul, pour devenir chrétien, c'est « repentez-vous et croyez ». C'est-à-dire qu'on reconnaît d'abord par la repentance que Jésus est Seigneur. Donc c'est lui qui a raison. Et je crois pour qu'il soit mon sauveur. Et bibliquement, je vous l'affirme, vous pouvez chercher, les gens ne voulaient pas me croire, puis il y en a un qui est parti faire une étude, on ne trouve jamais dans la Bible l'expression sauveur et Seigneur. C'est toujours Seigneur et Sauveur. Parce qu'avant de se convertir, on reconnaît quelque part que Jésus est Seigneur. Ça veut dire qu'on lui donne raison et on se repent, on change d'avis, peut être en règle avec lui, et donc, enfin en accord avec lui, et on demande pardon, il devient notre sauveur. Fin de la parenthèse sur la repentance. Donc, il y a un appel à la repentance. Je reviens à mon petit livret. Sinon, donc, s'il n'y a pas de repentance, qu'est-ce qui va se passer ? Cela, on voit déjà tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes disaient, donc, changer de vie, changer d'avis, changer de pensée, sinon, Dieu va intervenir. Ensuite, une exhortation, à poursuivre, et là, c'est le côté positif, si on fait ça, donc maintenant, ce n'est plus sinon, mais c'est si oui. Si oui, si vous faites ça, il y a une promesse. Et on termine chaque fois avec l'expression que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ça conforte mon idée que tout a été dit pour toutes les églises. Ce n'est pas simplement à cette église-là. Ce que l'Esprit dit aux églises. Et on termine avec au vainqueur ou à celui qui sera vainqueur, je donnerai, etc. Et ce sont des expressions après qui sont reprises tout à la fin de l'Apocalypse. On y reviendra à la fin de la semaine. Donc, ayant vu la structure type de ces lettres, maintenant, on va essayer de mettre un petit peu de concret et on va regarder deux de ces lettres. La première, c'est la lettre à Éphèse. Donc, chapitre 2 et le verset 1. C'est la place derrière. Verset 1. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Merci. Celui qui tient les sept étoiles dans la main droite, c'est Jésus. J'avais dit tout à l'heure que chaque description est tirée du premier chapitre. Et en plus, avec cette expression, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, une allusion à l'Ancien Testament. Je vous avais dit hier 285 allusions à l'Ancien Testament. Et là, on peut voir Lévitique 26. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. D'abord, il y a un bilan positif. Je connais tes œuvres. Ton travail, ta persévérance, c'est super. Tes œuvres, c'est quoi? Déjà, si vous connaissez un petit peu Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 2 qui devrait être inscrit sur le patrimoine de l'humanité, tellement c'est beau comme chapitre, il y a toute la partie sur la grâce de Dieu, suivie du verset qui dit après... Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Un ouvrage, en grec poema, donc vous voyez, on est proche du mot poème. Moi, j'aime bien la traduction. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ. Donc, si vous voulez connaître le chef-d'œuvre de Dieu, ne regardez pas la montagne en face, regardez-vous les uns les autres. Voilà, voilà le chef-d'œuvre de Dieu, vous êtes là, devant moi. Hein. Sans les chrétiens, c'est l'Église. Donc, il dit, je connais ces œuvres que vous faites en tant que mon ouvrage, en tant que mon chef-d'œuvre. C'est bien. Je connais ton travail. Ça aussi, c'est bien. C'est bien. La vie chrétienne, même si sociologiquement ça fait partie des loisirs... Il y a quand même du travail à faire. Hein? Comme Joé disait tout à l'heure, pour comprendre la Bible, il faut s'y mettre. Il y a un certain travail, parce que même si c'est un plaisir de le lire, de temps en temps, il faut se forcer un petit peu. Donc c'est aussi du travail. La persévérance, très très important, la persévérance. Continuer à faire quelque chose. Ce n'est pas dans notre nature. Avant d'être secrétaire général des GBU, j'étais pasteur, avant, je suis toujours d'ailleurs, avant d'être pasteur, j'étais prof d'anglais, et j'aimais bien la phrase qui se trouvait au début d'un des livres que j'utilisais, « Le monde est rempli de personnes qui ont commencé à apprendre l'anglais. » Oui. Et donc, commencer à faire quelque chose, c'est facile. Persévérer, c'est autre chose. Et c'est une grande vertu, une grande qualité des chrétiens de persévérer. Ensuite, je connais aussi, ce qui est bien, je connais ton discernement spirituel. tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Certains milieux d'église, il y a encore des gens qui se disent apôtres, même aujourd'hui. Il faut discerner, hein, qu'est-ce que ça veut dire. Paul, d'ailleurs, dans Acte 20, est passé tout près d'Éphèse, et il a fait venir les anciens de cette église d'Éphèse, et il leur avait dit, Acte 20, les versets 29 et 30, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. » Cela a toujours été le cas depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui. Il faut toujours discerner si on est en train de dire des choses bibliques dans nos églises. Ensuite, je connais le fait que tu as souffert à cause de mon nom. Oui. Être chrétien peut apporter son lot de souffrance. Parce qu'on est perçu comme étant différent. On ne veut pas l'être, sauf pour plaire au Seigneur, mais on est perçu comme ça, une certaine souffrance. Mais, tu ne t'es pas lassé. Et ça, c'est aussi important. C'est un peu comme la persévérance. Il y a bien des années, j'ai vu sur un tombeau, dans une église, les mots en latin, non deficiam, je n'abandonnerai pas. Et j'ai dit, là, je vais prendre pour moi. Par la grâce du Seigneur, je n'abandonnerai pas. Non déficiam. Mais il y a un reproche, et un reproche très important. Ce que j'ai contre toi, verset 4, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est très grave. C'est tellement grave d'ailleurs qu'il dit que s'il ne se repent pas, il va même ôter le chandelier de sa place. Ils ne seront même plus une église. C'est grave. Abandonner son premier amour, ça veut dire quoi? Je pense, quelque part, c'est parce que, il y a plein de raisons, on peut se lancer dans l'activisme. Le culte est tellement parfait que tout le monde est là une heure avant pour que la sono marche bien, que l'image est bien, enfin, tout est parfait. Et on oublie le Seigneur. Ou bien, ça peut être les soucis de la vie, plutôt que de faire confiance à Dieu, les soucis nous pèsent de plus en plus. Jésus en parle dans la parabole du semeur, en disant aussi, ça peut être, par contre, l'argent. L'argent. Ce n'est pas un problème pour les étudiants. Parce que vous n'avez pas. Non, ça, c'est des soucis. Mais dès que vous partirez d'ici, pour partir dans la vie active, et vous avez un gros salaire, là, l'argent risque d'être un problème. Donc, petit conseil, mettez à part un certain pourcentage pour le GBU tout de suite. Et, et à ce moment-là, vous n'aurez pas de problème avec cette partie-là de votre argent. Ou les plaisirs. On ne vit que pour les plaisirs. Donc, toutes ces raisons-là vont faire en sorte qu'on oublie le premier amour. Alors, personnellement, il y a un film qui m'a beaucoup parlé à ce sujet. Je sais, c'est un vieux film. Un film qui était tourné dans les années 60. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qui s'appelle Un violon sur le toit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un violon sur le toit. Pourquoi ça m'a parlé? Je l'ai revu en DVD il y a une quinzaine d'années. C'est un film qui parle des juifs persécutés en Ukraine. C'est une comédie musicale en même temps, mais ce n'est pas une comédie musicale light, hein, légère. Hein. Ça aborde des sujets très importants. Et c'est donc d'autant plus parlant pour moi que, comme un certain nombre ici le savent, donc ma femme, Marie, qui fait la cuisine ici d'ailleurs, est d'origine juive, elle est juive. Ses parents étaient polonais et ils ont dû fuir la Pologne à cause de la persécution des Juifs, de la Shoah. Et donc, en regardant ce film, c'est évident hein, que ça m'a touché. Hein, j'y peux rien. Mais dans ce film, en même temps, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a une tension entre, d'une part, la tradition. Il y a des gens qui parlent de nos traditions. C'est, d'un côté, c'est bien. C'est comme ça que le peuple juif s'était prolongé pendant des siècles dans des situations pas évidentes, en Europe de l'Est, par exemple. Mais, de l'autre côté, un nouveau monde qui arrive. Donc, il y a un jeune couple, et bien sûr, ce couple qui commence à se fréquenter, c'était pas fait, c'était pas arrangé par la femme du village qui arrange toujours les mariages. Et les parents disent, mais qu'est-ce que ça, des deux jeunes qui se fréquentent comme ça, sans l'accord des parents, c'est pas normal, enfin, etc. Donc, il y a toute cette tension. Et à un certain moment, le vieux monsieur, le papa de la fille, si je m'en souviens bien, la fille, c'est ça, parce que le garçon, c'est le tailleur, donc la fille. Il vient voir sa femme et il dit, c'est un nouveau monde qui arrive. Aujourd'hui, les gens, ils se marient parce qu'ils s'aiment. Et puis, il se tourne vers sa femme et dit, est-ce que tu m'aimes? Elle a dit, ça fait 25 ans que je prépare tes repas. Mais est-ce que tu m'aimes? Ça fait 25 ans que je lave tes vêtements. Enfin, c'est un chant. Hein. Mais est-ce que tu m'aimes? Je raccommode tes chaussettes. Je cire tes chaussures. Mais est-ce que tu m'aimes? Je traite ta vache. Mais est-ce que tu m'aimes? Je partage ton lit. Mais est-ce que tu m'aimes? Et puis elle finit par dire, bah, je suppose que oui. Mais ça, je pense que c'est une très bonne illustration de cette lettre à l'église d'Éphèse. Parce qu'on peut faire plein de choses, mais est-ce qu'on aime toujours le Seigneur? Et ça, c'est pas nouveau, cette affaire. Même déjà dans Jérémie, hein, le Seigneur se compare à un homme, et il dit donc vis-à-vis d'Israël, c'est Jérémie 2, verset 2, « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. » Bon, allusion bien sûr à la sortie de l'Égypte. Et après, il continue pour dire dans Jérémie, ailleurs aussi, mais cet amour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, que faire? Que faire? Verset 5. Quand on a l'impression qu'on perd son premier amour. D'abord, souviens-toi d'où tu es tombé. Il y a un moment où c'est bon de penser, souviens-toi. C'est pas la nostalgie, c'est pas encore les regrets, c'est simplement constater pour passer à l'étape suivante, repens-toi. Changer d'avis, changer de pensée, comprendre les choses autrement. Et à ce moment-là, pratique tes premières œuvres, donc qui étaient faites par la grâce, à cause de la grâce, et non pas à cause d'un sentiment de devoir ou que sais-je encore. La seule motivation de nos actes, c'est la grâce de Dieu. Tite, chapitre 2, les versets 11. Car la grâce de Dieu a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et ainsi, verset 14, on sera un peuple purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La motivation, c'est la grâce de Dieu. Puis après, petite exhortation, je hais les œuvres des Nicolaïtes. Qui sont les Nicolaïtes? Je vais donner la réponse. Personne ne sait. Personne. Aucun théologien. Peut-être Nicolas, mais non, il ne connaît pas non plus. Voilà. On ne sait pas quelle est cette hérésie. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi, après avoir parlé de la perte de son premier amour, pourquoi on parle de cela? Et je crois que la réponse est quand même très importante. C'est que si on ne fait pas attention, si on constate qu'on a perdu son premier amour, on peut tomber dans un sentimentalisme où on dit « il suffit que je ressente de nouveau des choses pour le Seigneur », alors qu'une partie de cet amour, c'est encore de combattre l'erreur. Ça fait partie. Ce n'est pas deux domaines différents. Le sentiment d'un côté et le combat contre l'erreur de l'autre. C'est un tout avec le Seigneur. Donc, la fin de cette lettre, verset 7, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Et cet arbre de vie, dont il est question dans Genèse chapitre 2, au chapitre 3 aussi, et dans Apocalypse 22, c'est l'arbre de vie, la vie éternelle, donc celui qui persévère donc, et qui vint avec le Seigneur, a cette assurance de vie éternelle dans le paradis de Dieu. Donc voilà, première lettre, l'église d'Éphèse. Deuxième lettre, qui est le troisième sur la liste, Apocalypse 2, verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Pergame, centre, grand centre administratif, centre de pèlerinage, parce qu'il y avait un grand temple dédié au dieu de la médecine, Escapule, sorte de lourde de l'Antiquité, si on veut, Pergame. Grande bibliothèque, 200 000 parchemins. Et c'est intéressant, sur le plan étymologique, parchemin vient de Pergame, en fait. Donc c'était l'origine du mot, parchemin. C'était à Pergame. Alors, puisqu'il y avait une grande bibliothèque, parce qu'il faut donc lire, celui qui s'adresse à cette église est celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. La description de Jésus au verset 12, tiré du chapitre 1, mais qui part de la parole de Dieu. Et cette fois-ci, il dit, je connais, il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a pas de reproche. Je sais où tu demeures, c'est le trône de Satan. On ne sait pas exactement pourquoi, mais c'était certainement un centre où les gens étaient assez opposés à Dieu, le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Donc, ce que Yo disait tout à l'heure, les premières étapes du témoignage, c'est de dire tout simplement, moi je suis chrétien. Après, on ne peut peut-être pas dire grand-chose, ça dépend du contexte, mais au moins que les gens sachent qu'on est chrétien. Sinon, on risque un contre-témoignage. Un homme m'a raconté une fois, apparemment une histoire véridique, il n'avait pas dit qu'il était chrétien. Et dans son travail, il y avait des personnes dans la cafetière qui discutaient pour dire on n'a pas besoin d'être pratiquant pour avoir une bonne vie. Mais tiens, regarde tel ou tel. Enfin, c'était chrétien. Mais parce qu'on ne savait pas que c'était chrétien, on a tiré la conclusion que ce n'était pas nécessaire d'être chrétien. D'avoir une vie qui marchait. Donc, voilà. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, où c'est apparemment un disciple là-bas qui était tué, un témoin fidèle, sachant que le mot témoin, c'est, en grec, c'est martyr. À cette époque-là, dire je vais témoigner, je veux dire, ou aller aux arènes pour être bouffé par les lions. Donc, la même chose, témoin égale martyr. Verset 14, il y a quand même un petit rapproche, quand même, parce que c'est une église qui est dans la moyenne, donc comme j'ai dit, j'ai quelque chose contre toi, tu permets des fausses doctrines dans l'église. La doctrine Balaam, ça c'est verset 14, et il y a des gens aussi qui sont attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Peut-être c'était les webmasters de l'époque, je ne sais pas. C'est déjà une référence à Internet, je ne sais pas. Ouais, non, je dis n'importe quoi. Mais c'est important de combattre l'erreur. Verset 16, repens-toi. Changer d'avis, changer de mentalité. Sinon, je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. La seule façon de combattre l'erreur, c'est de dire, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Le Seigneur est quand même inspiré, parce que je lui ai dit la même chose ce matin. Est-ce qu'on sait, connaît la parole de Dieu suffisamment pour combattre l'erreur? On ne connaît pas l'erreur des Nicolaïtes, mais on connaît quand même un peu sur Balaam. Balaam était prophète. Et le roi Balak a voulu qu'il vienne maudire Israël. Il n'a pas osé le faire. Mais il a agi en sous-marin. Parce que plutôt que de maudire directement, qu'est-ce qu'il a fait? On va lire cela dans Nombre 25. Nombre 25, le verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Pourquoi le peuple d'Israël a-t-il été séduit, on peut dire, par les filles de Moab? Le chapitre 31 lui donne la réponse. Le verset 16. Voici, donc les femmes, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Donc, ce qu'il faut toujours retenir, à mon sens, je ne dis pas que c'est une règle à 100%, mais ça se vérifie très très souvent. On ne peut difficilement séparer erreur doctrinale et erreur de comportement. Et très souvent, une erreur de comportement, et surtout, parce qu'on en parle avec énormément de lucidité dans la Bible, tout ce qui est sexuel va amener les gens après à se justifier en remettant en question des choses sur le plan doctrinal pour se donner raison. Ou bien, dans l'autre sens, on change des choses sur le doctrinal qui ouvre la porte pour dire bon, finalement, c'est pas si grave. Les gnostiques au 1er siècle pensaient que seul l'esprit était saint et bon, le corps ne valait rien. Donc, à partir de là, il conclut deux choses. Soit le corps est tellement mauvais, en quelque sorte, qu'il faut imposer avec rigueur beaucoup d'ascétisme, se priver des choses. Ou bien, on dit, du moment que l'esprit reste pur, on peut faire n'importe quoi avec son corps, parce que ça ne touche pas l'esprit. Donc, faites attention, l'erreur doctrinale mène à l'immoralité et vice-versa. Donc, appel à la repentance et à la fin, comme toujours, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et cette fois-ci, il y a deux promesses. Je vous donnerai de la manne cachée et je vous donnerai un caillou blanc. La manne cachée, c'est quoi? La manne était la nourriture donnée au peuple d'Israël pendant la traversée du désert. Et ils ont pris de cette manne pour le mettre dans l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint, pour rappel de la provision du Seigneur pour le pèlerinage. Donc, le Seigneur promet à l'église de Pergame qu'il va donner tout ce qu'il faut pour le pèlerinage terrestre. Deuxième chose, le caillou sur lequel est écrit un nom nouveau, il y a différentes interprétations, mais l'idée la plus généralisée, c'est qu'à cette époque-là, on voulait inviter à une fête, on donnait une invitation. L'invitation, il n'avait pas beaucoup de papier, donc il donnait un petit caillou sur lequel il marquait le nom de la personne, et ce caillou on donnait, si on veut, à l'entrée de la fête. Et je pense que ça tient la route quelque part, parce que ce caillou, on va pouvoir le donner au Seigneur à la fin de notre vie pour rentrer dans la fête de l'éternité, le festin de l'agneau. Et quel est le nom nouveau? Si on compare avec Apocalypse 19, on n'a pas le temps de regarder, vous pouvez le chercher vous-même si vous voulez au verset 12, le nom inconnu, c'est le nom de Jésus. Donc c'est lui, quand j'arrive à la fête, je donne le caillou, hein, c'est marqué Jésus dessus, voilà. Vous avez la vie éternelle. Jésus, donc, est au milieu des chandeliers, c'est un grand réconfort pour nous, et les chapitres 2 et 3 nous donnent énormément d'encouragement, de remise en question, d'exhortation, pour que l'on continue notre route jusqu'au bout. Dans l'amour, la bonne doctrine, la sanctification, l'évangélisation et la persévérance.